Loïc Tassé, chroniqueur des affaires internationales. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, les démocrates qui partent après Trump, c'est le cas de le dire.
Ah, complètement. Dans toutes les directions, on en discutait hors micro, c'est que ça, c'est presque trop.
C'est parce que là, ils vont le transformer en victime.
Ça se pourrait. Et d'ailleurs, Trump a déjà dit, en écrit, tu sais, sur ses tweets, président harcelé, je suis un président en lettres majuscules.
Mais c'est parce que l'enquête du FBI, en fait, les conclusions de l'enquête ont même pas encore été déposées là, par Mueller, le procureur spécial.
Non, et d'autant plus que les démocrates eux-mêmes disent, écoutez, on n'a aucun élément de preuve qui nous permette véritablement de démettre Donald Trump. Tu sais, le fameux impeachment.
Oui, démettre dans le sens de démission.
Mais en fait, il
de destitution,
tu as raison.
Oui.
Alors, mais ils disent, mais tout de même, on a plusieurs raisons de croire qu'il a abusé de son pouvoir, qu'il a été corrompu, qu'il a tenté d'obstruer la justice, qu'il a tenté d'acheter le silence de ses maîtresses, etc. Et c'est vrai, on l'a vu à travers.
C'est ça, c'est là-dessus qu'ils vont enquêter, les démocrates.
Ils vont enquêter sur les Russes aussi, sur ce qu'ils veulent, par exemple. Écoute, il y a un comité qui veut absolument avoir les conversations que Trump a eues avec Poutine. Il veut, et ils sont même pas sûrs que ça existe. Il est possible que Trump ait détruit les conversations qu'il a eu avec
Poutine. Je suis en train de me demander, ça se pourrait-tu que les démocrates, leur objectif, ce soit d'écœurer Trump à un point tel qu'il sera découragé de se représenter pour un deuxième mandat?
Je ne pense pas qu'il soit écœurable si facilement.
Tu
Donald
penses qu'il n'est pas écœurable à ce moment-là?
Non, je pense qu'il y en a
parce que ces histoires
conduire.
Personnelles, à un moment donné, ça peut finir par l'atteindre, tu ne penses pas? Ces histoires, par exemple, d'impôts peut-être pas payés, ces transactions avec les Russes pour financer des projets immobiliers,
c'est possible,
ces histoires de maîtresses, de couchettes, de tout le reste.
Il veut se représenter. Il
est
en campagne électorale.
C'est sûr qu'il veut.
Ça va être dur, ça va être difficile pour lui dans les deux années qui viennent. Tout le monde s'entend là-dessus, c'est évident. Est-ce qu'il va renoncer à la présidence? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que pour
non,
ça,
non,
il
mais
le
je ne dis pas qu'il va le faire, mais je te demande, l'objectif des démocrates, ça peut être juste de l'écœurer puis de le ternir encore davantage. Là.
Mais... Oui, mais tu sais, il y a même les Républicains qui se posent de très sérieuses questions sur Trump. Tu sais, la semaine dernière, il y a eu il y a Cohen qui a été devant l'ex-avocat de Donald Trump, qui a comparu devant trois comités. Nous, on en a parlé d'un parce que c'était celui qui était public, le mercredi. Mais le mardi et le jeudi, il était là encore. Et le vendredi, d'ailleurs, aussi. Il était devant des comités. Et les sénateurs ont entendu des choses. Et on se rend compte que on dirait que la coalition des Républicains derrière Donald Trump est en train de craquer. T'as Rand Paul, par exemple, qui a dit, écoutez, là, cette histoire de mesures d'urgence au Sénat, vous savez, tu sais, la loi des mesures d'urgence.
Pour favoriser la construction du mur.
Je vais voter du côté des démocrates et je vais voter pour annuler les mesures d'urgence de Donald Trump. Il y a au moins 4 sénateurs républicains qui vont voter contre. Et donc, il semble bien que le vote contre les mesures d'urgence pour le mur
pourrait atteindre les 2/3.
Non. Va passer le 50% plus 1
au Sénat. Va passer la majorité, oui.
Donc, mais il y a même, écoute, je regardais aujourd'hui sur CNN, il y a même des gens qui se disent, écoutez, ça va monter à... Si jamais Trump oppose son veto, il faut les 2/3 des deux chambres.
Ils l'auront pas.
Non.
Ils pourraient s'en rapprocher.
Mais ils s'en rapprochent drôlement. Et des gens remarquent à travers ça que donc le groupe derrière Trump, semble-t-il, est de moins en moins derrière lui. Enfin, on va voir ce qui va arriver.
Intéressant.
Mais c'est ça qui ressort.
Mais pendant ce temps, tu me disais que... Alors, on sait à quel point Trump, s'en est pris à la Chine. Mm-hmm. Certains diront qu'il y a raison de le faire, en partie du moins, parce que les Chinois, effectivement, ne respectent pas toujours les règles commerciales. Maintenant, il s'en prend à l'Inde, qui est comme l'autre grande puissance émergente.
Oui, beaucoup plus faible que la Chine, on s'en
Mais quand même, certains disent qu'elle va finir par attraper la Chine avec le temps.
Oui, et c'est pas... Tu te demandes ce qu'il fait. Il vient de décider unilatéralement de mettre fin à un programme qui permettait à l'Inde d'exporter sans droit de douane pour 6,6 milliards de dollars en Inde. C'est pas beaucoup, parce que l'Inde exporte 45 milliards de dollars de produits aux États-Unis.
Donc, il y avait 6,6 milliards qui pouvaient entrer de produits indiens qui entraient aux États-Unis sans frais de douane.
Sans frais de douane.
Oh, d'accord.
Et Trump a dit, c'est fini.
OK, vous allez payer des douanes là-dessus.
Vous allez payer des douanes là-dessus. Sauf que tu dis, oui, mais c'est pas très habile de faire ça en ce moment. Je comprends, ils négocient avec la Chine, ils négocient avec...
Ce serait mieux de conclure avec les Chinois avant d'ouvrir le front
Et c'est
avec
surtout,
l'Inde.
Écoute, c'est juste avant les élections en Inde. Donc, tu sais, le premier ministre chinois, indien, maudit.
Ben là, il va se draper dans le nationalisme.
Ben, il est obligé. Il essaie de garder un profil bas, mais c'est pas très adroit ce qu'il est en train de faire. Puis là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce qu'il cherche aussi à étendre sa guerre commerciale contre l'Inde? En tout cas, il est parti pour ça, de la façon dont il agit.
Très bien. Parle-nous de Macron.
Oui.
Macron, le président français, qui s'est pas encore vraiment remis de la crise des gilets jaunes.
Non.
Là.
Elle n'est pas finie tout à fait d'ailleurs.
Non, c'est absolument exact. Quoique ça diminue en intensité.
Oui, absolument.
Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il veut faire renaître l'Europe, il veut apporter des réformes pour que les Européens se sentent davantage européens?
Exactement. Il a décidé de faire... Enfin, il a écrit une grande lettre aux médias et dans cette lettre, il dit, écoutez, l'Europe est plus nécessaire que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il veut une renaissance de l'Europe. Et pour cette renaissance de l'Europe, que propose-t-il? Il propose de créer des grandes institutions européennes, de nouvelles institutions européennes.
Il en propose six.
Oui, je sais.
Ça, je suis pas sûr. Parce que déjà que les Européens sont pas très attachés au Parlement européen. Ils sont pas très nombreux à voter aux élections européennes, par exemple. Ils détestent pour plusieurs d'entre eux les institutions de Bruxelles, la Commission européenne. Là, ils proposent 6 nouvelles.
Oui, je te les nomme très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais une agence pour la protection de la démocratie qui interdirait, par exemple, aux partis politiques de se faire financer à l'étranger, qui combattrait les cyberattaques fausses nouvelles. Bon. Remarque, c'est bon, hein. C'est pas, y a personne qui est contre la vertu. Deuxième institution, un conseil intérieur européen de la sécurité intérieure. Ça, c'est plus
C'est comme prendre la police puis la monter au niveau européen. Là.
Oui, et c'est toute la question de la zone de Schengen. Tu sais, il n'y a pas de droit de douane entre 22 pays européens. Alors, lui, il dit, bon, on pourrait avoir un contrôle plus strict aux frontières, mais il faudrait qu'on ait une politique d'asile commune. On pourrait procéder peut-être à des vérifications de frontières.
Il propose de prendre des pouvoirs de l'État, des États nationaux et les envoyer, à Bruxelles.
C'était
là.
Ma conclusion, mais c'est ça qu'il est en train de faire à travers ces organismes.
Mais il y a beaucoup d'Européens qui sont justement
Je le sais, et c'est pour ça que le Brexit a eu lieu, parce qu'en Angleterre, ils en avaient assez. Mais lui, il comprend pas ça. Et à travers ces organismes-là, ce qu'il est en train de faire, c'est de dire, il faut renforcer l'Europe, il nous faut une Europe plus forte, plus institutionnelle.
C'est du fédéralisme européen.
Oui, à la plus coopérative, si tu veux, que le fédéralisme qu'on connaît au Canada. Mais tout de même, ça pose un grave problème. Et je te dis rapidement les autres, puisque je les ai annoncés. Il veut une organisation qui s'occuperait du salaire minimum dans tous les États. Okay. Une organisation qui serait une espèce de banque européenne du climat qui financerait les projets de transition écologique.
Banque européenne du climat.
Oui.
OK, pour lutter contre les gaz à effet de serre.
Encore une fois, c'est pas nécessairement des mauvaises idées, mais... C'est toute la question des institutions. Cinquièmement, une agence de sécurité alimentaire qui serait protégée de l'influence néfaste des lobbies et qui évaluerait l'impact de diverses substances sur les aliments et sur l'environnement.
Comme les pesticides.
Et encore une fois, une bonne idée. Bon. Et enfin, une espèce de conférence de l'Europe. Et ça, c'est encore plus délicat, qui approuverait tous les changements qui sont proposés par les institutions et par les États membres. Donc, une façon simplifiée de changer l'Europe. On dirait une voie rapide pour changer l'Europe.
Mais pour centraliser.
Pour prendre les pouvoirs des États et envoyer en Europe.
Oui, voilà.
Alors, lui dit, ça va très bien marcher, vous allez voir, je suis contre le nationalisme, mais je pense qu'il a pas très bien saisi ce qui se passe.
Il fait une mauvaise lecture, là.
Je le pense que oui.
Il vient de donner, des munitions, en tout cas, à la droite, là.
Totalement.
Ah, en France,
totalement.
Là, on s'entend.
Parce que moi, je pense que l'Europe se construit beaucoup trop vite, c'est un de ses problèmes.
Ben, en tout cas, il y a des citoyens français et ailleurs aussi qui trouvent que ça va trop vite, effectivement. OK, Loïc Tassé, je te remercie. On se reparle demain.
C'est ça.
Dans un instant, on va vous parler de cette fontaine de jouvence. Je vous le dis, là, c'est pas des blagues. Les scientifiques ont découvert des substances dans les plantes qui retarderaient le vieillissement. OK? Ils mélangent différents ingrédients, notamment dans l'écorce de saule, puis d'autres affaires, les pieds de céleri, je sais pas quoi. Ça a l'air bien comique, a priori, mais je vous dis, c'est absolument vrai. Ils retardent le vieillissement des cellules, donc possiblement, éventuellement, le retardement de nos propres cellules.
On va mourir jeune.
On pourrait mourir beaucoup plus vieux, d'après ce que je comprends.
Non.
Ben oui. Après la pause, Loïc, écoute ça, tu vas voir.